Chapitre 7 L'enfant voit. Quand Evelyne annonça au vieux Jaskouski sa décision inébranlable d'épouser l'aveugle de la métairie, sa vieille mère se mit à pleurer, et son père, après avoir fait une prière devant les saintes images, déclara que, selon lui, telle était sans doute la volonté de Dieu dans ce cas particulier. On célébra le mariage. Un bonheur nouveau et bien doux commença pour Pierre, mais à ce bonheur se mêlait une sorte d'inquiétude. Pendant ces moments de sérénité, il souriait, mais de telle manière qu'à travers ce sourire apparaissait un doute mélancolique, comme s'il ne croyait pas ce bonheur durable. Et quand on lui annonça que peut-être il allait devenir père, il accueillit cette nouvelle avec une expression de frayeur. Néanmoins, sa vie présente, qui s'écoulait au milieu de pensées inquiètes sur sa femme et l'enfant à venir, ne lui permettait plus de concentrer son esprit sur ses stériles tourments d'autrefois. Parfois aussi, au milieu de ses soucis, surgissait dans son âme le souvenir des lamentations plaintives des aveugles, et son cœur se serrait de pitié, et ses réflexions prenaient un autre tour. C'est ainsi qu'il devint moins sensible aux excitations lumineuses extérieures et que le travail intérieur d'autrefois s'apaisa. Ses troublantes forces organiques s'assoupirent. Il ne les éveillait plus par la tendance volontaire de ses facultés à confondre dans un seul ensemble ses impressions variées. Mais qui sait peut-être que ce sommeil de l'âme ne coopérait que mieux au travail organique inconscient et que ses sensations confuses et dépareillées se frayaient avec d'autant plus de succès des voies dans son esprit pour se diriger les unes vers les autres. Ainsi, pendant le sommeil, le cerveau crée souvent des idées et des images qu'il n'aurait jamais su concevoir par la seule force de sa volonté. Dans la même chambre où autrefois Pierre vint au monde, régnait un silence interrompu seulement par les cris entrecoupés de l'enfant. Plusieurs jours s'étaient déjà écoulés depuis sa naissance, et Evelyne se rétablissait rapidement. Mais en revanche, Pierre semblait abattu par le pressentiment de quelque malheur prochain. Le médecin prit l'enfant dans ses bras, le transporta et le posa près de la fenêtre. Tirant brusquement le rideau, il laissa entrer vivement dans l'appartement un clair rayon de lumière et se pencha sur le bébé avec ses instruments. Pierre était assis tout à côté, la tête baissée, comme sous le coup d'un morne abacablement. Il semblait qu'il ne laisserait pas la moindre importance à ce que faisait le médecin, comme s'il en prévoyait d'avance les résultats. « Il est sûrement aveugle, répétait-il, il n'aurait pas dû naître. » Le jeune médecin ne répondait rien et continuait ses observations. Enfin, il mit de côté son ophtalmoscope et dans la chambre retentit sa voix calme et sûre. « La pupille se contracte, l'enfant voit !» Pierre tressaillit et se leva brusquement. Ce mouvement signifiait qu'il avait entendu les paroles du médecin, mais à en juger par l'expression de son visage, on eût dit qu'il n'avait pas compris leur signification. Son bras tremblant appuyé sur l'encadrement de la fenêtre, il demeurait cloué sur place, avec son visage pâle et ses traits immobiles levés au ciel. Jusqu'à ce moment, il avait été dans un état de triste excitation. Il ne sentait pas, eût-on dit, mais en même temps, toutes ses fibres vibraient en lui et palpitaient d'angoisse. Il sentait l'obscurité qui l'entourait. Il la secrétait, il la percevait en dehors de lui, dans son immensité. Elle avançait sur lui, tandis qu'il l'embrassait dans son imagination, comme pour se mesurer avec elle. Il se levait à sa rencontre pour protéger son enfant contre cet immense et vacillant océan des ténèbres impénétrables. Tel était l'état de son âme, tandis que le médecin faisait silencieusement ses préparatifs. Auparavant aussi, il avait peur, mais alors des fureurs d'espoir subsistaient dans son cœur. À présent, sa peur épuisante, atroce, atteignait le maximum de l'intensité, investissait ses nerfs, excité au dernier degré, et son espoir s'était évanoui, caché quelque part dans les plus profonds replis de son être. Et tout à coup, ces deux mots, l'enfant voit, le retournèrent du tout au tout. En un clin d'œil, la peur disparut. L'espoir se transforma en certitude et illumina le cœur de l'aveugle dont le voile s'était soulevé avec appréhension. C'était un changement soudain, une vraie secousse qui fit irruption dans son âme obscure par un rayon aussi éclatant et aussi vif qu'un éclair. Ces deux mots du médecin s'étaient tracés, on eût dit, une voie de feu dans son cerveau. Telle une rapide étincelle s'enflammant quelque part en lui et éclairant les profondeurs les plus reculées de son organisme. Tout frémit en lui et il tressaillit comme une corde fortement tendue sous l'influence d'un coup subit. À la suite de cette étincelle devant ses yeux éteints dès avant sa naissance, brillèrent instantanément des spectres étranges. Était-ce des rayons ou des sons? Il ne s'en rendait pas compte. C'étaient des sons qui s'animaient, prenaient des formes et scintillaient comme des rayons. Ils étincelaient comme la coupole du firmament, ils roulaient comme le soleil lumineux dans le ciel, ils s'agitaient comme le frémissant murmure du gazon vert dans la steppe, ils se balançaient comme les branches des hêtres rêveurs. Et c'est là ce qu'il éprouva dans le premier moment. Et ce furent les sensations confuses de ce brillant mirage qui lui restèrent seules dans la mémoire. Tout le reste, il l'oublia plus tard. Seulement, il affirmait opiniâtrement que pendant ces quelques instants, il avait vu. Qu'est-ce qu'il avait vu en particulier? Comment l'avait-il vu? L'avait-il vu réellement? Cela demeura un mystère. Bien des gens lui disaient que c'était impossible, mais il soutenait qu'il avait contemplé le ciel et la terre, sa mère, sa femme et Maxime. Pendant quelques secondes, il resta debout, le visage illuminé, fixé en haut. Il était tellement étrange qu'involontairement, il attira sur lui l'attention de chacun et que tout se tut autour de lui. Il semblait que l'homme qui se tenait debout au milieu de l'appartement n'était plus celui qu'il connaissait si bien, mais un autre, un inconnu, tandis que celui-là même, l'ancien, disparaissait sous le voile du mystère qu'il avait subitement enveloppé. Il se trouva tout seul, pendant quelques courts instants, en face de ce mystère. Plus tard, il ne lui resta que le souvenir d'une sorte de satisfaction joyeuse, et l'horrible conviction qu'à ce moment il avait vu. Cela avait-il pu arriver en réalité? Était-il possible que les sensations lumineuses, confuses et indéfinies, qui se dirigeaient vers son cerveau obscur par des voies inconnues dans les moments où l'aveugle palpitait tout entier et s'efforçait de se porter au-devant des rayons d'une journée ensoleillée, eussent, dans une minute de soudaine extase, flottait devant ses yeux morts comme l'image nébuleuse d'un négatif. Était-il possible que devant lui se fût dressée l'image du ciel bleu et de la rivière transparente et de la petite colline sur laquelle il avait éprouvé tant de sentiments divers et si souvent pleuré quand il était encore enfant? Ou était-ce que dans son esprit excité surgissait alors en spectre fantastique des montagnes chimériques et s'étendaient au loin des plaines ignorées, et que des arbres merveilleux se balançaient sur la surface polie des eaux inconnues, et que le soleil inondait ce tableau de sa vive lumière, ce soleil qui réchauffa les générations innombrables de ses ancêtres? Ou bien tout cela avait-il germé, sous l'aspect de fantômes indécis, dans les profondeurs de son obscur cerveau, dont parlait Maxime, et où les rayons et les sons produisent la même impression de gaieté ou de mélancolie de joie ou d'angoisse. Plus tard, il se rappela seulement l'accord parfait qui retentit pour un moment en lui, accord dans lequel s'entrelacèrent, dans un seul ensemble, toutes les impressions de son âme, la sensation de la nature et le vivant amour des misérables. Qui sait? Il se rappelait seulement comment ce mystère était descendu sur lui et comment il l'avait quitté. Alors images et sons s'embrouillèrent et se mêlèrent, tintant et vacillant, tremblant et s'éteignant comme une corde élastique qui se tait après avoir vibré, d'abord élevé, puissant, puis plus faible, à peine perceptible. Il lui semblait que quelque chose roulait en bas, le long du rayon d'un cercle gigantesque, vers les ténèbres infinies, et se taisait. Ténèbres et silence. Quelques spectres confus essayent encore de renaître des ténèbres profondes, mais ils n'ont plus déjà ni forme, ni ton, ni couleur. Quelque part en bas seulement résonnent les roulements lointains d'une gamme, rayant l'obscurité de traits bariolés pour s'engloutir également dans l'espace. Alors, tout à coup, les sons extérieurs frappèrent son oreille dans leur forme habituelle. Il semblait qu'il venait de se réveiller, mais il restait toujours debout, illuminé, joyeux, serrant les mains de sa mère et celles de Maxime. « Et qu'est-ce que tu as donc ?» lui demanda sa mère d'une voix anxieuse. « Rien, il me semble que je vous ai vus tous. Mais je ne dors pas, n'est-ce pas ?»« Et à présent, » demanda-t-elle tout émue, « te rappelles-tu, te souviendras-tu » L'aveugle soupira profondément. « Non, » répondit-il avec effort, « mais ce n'est rien, parce que tout cela, je l'ai donné à lui, à l'enfant. » Il chancela et perdit connaissance. Son visage pâlit, mais le reflet d'une satisfaction joyeuse errait encore. Épilogue. Un public nombreux se réunit à Kiev pendant les contrats pour entendre un musicien original. Il était aveugle, mais on disait des merveilles de son talent musical. La salle des contrats était pour cette raison tout à fait comble, et la recette destinée à une œuvre de bienfaisance, confiée aux soins d'un vieillard boiteux, parents du musicien, atteignait le maximum. Un silence profond s'établit dans la salle quand sur l'estrade apparut un jeune homme, aux yeux grands et beaux, au visage pâle. Personne ne l'aurait pris pour un aveugle si ses yeux n'avaient été si immobiles et si une jeune dame blonde, à ce qu'on disait la femme du musicien, ne l'avait pas conduit par la main. « Rien d'étonnant s'il produit par son jeu une impression si forte, » disait dans la foule quelques zoïles à son voisin. « Il est de l'extérieur extrêmement dramatique. » Et en effet, ce visage pâle, avec l'expression d'une attention rêveuse, et cette étrange physionomie prédisposait à quelque chose de particulier, d'insolite. Son jeu s'harmonisait complètement avec cette impression. Le public du Midi de la Russie aime en général et apprécie ses mélodies natales. Mais ici, même la foule bigarrée des contrats fut en un clin d'œil saisie et embrasée par cet impétueux torrent musical. Le sentiment vivant de la nature natale, une délicate et originale communion avec les sources immédiates de la mélodie populaire, se traduisait par une improvisation merveilleuse qui coulait librement sous les doigts du musicien aveugle. Riche en couleurs, flexible et chantante, elle fusait comme un jet sonore, tantôt s'élevant ainsi qu'un hymne solennel, tantôt s'épanchant une mélodie mélancolique et intime. On croyait entendre tantôt une tempête qui grondait retentissante dans les cieux et se déroulait dans l'immensité de l'espace infini, et tantôt seulement une brise des steppes qui frôlait l'herbe des tertres et vous plongeait dans de douces rêveries sur le passé. Quand il s'arrêta, le tonnerre des applaudissements des auditeurs, transporté, remplit l'énorme salle. L'aveugle était assis, la tête penchée, écoutant avec étonnement le bruit de ce fracas inconnu. Mais voilà qu'il leva de nouveau ses mains et frappa le clavier. Et tout le public immense se tut instantanément. En ce moment entra Maxime. Il examina attentivement cette foule nombreuse qui, toute saisie d'un seul sentiment, dirigeait sur l'aveugle ses regards avides et brûlants. Le vieillard écoutait et attendait. Il lui semblait que cette improvisation puissante, qui roulait si librement de l'âme du musicien, allait s'interrompre net tout à coup, comme auparavant, par une question maladive et inquiète qui ouvrirait une nouvelle plaie dans l'âme de son pupille aveugle. Mais les sons grandissaient et s'accentuaient de plus en plus larges, de plus en plus puissants, de plus en plus amples, ravissant et maîtrisant le cœur des auditeurs unanimement haletant. Et plus Maxime écoutait, plus il devenait évident pour lui que dans son jeu résonnaient des accents qu'il croyait reconnaître. Oui, c'était cette voix des aveugles dans la rue bruyante. Claire, pleine de fracas et de vie, roule une vague étincelant, se brisant, s'éparpillant en mille sons. Tantôt elle se lève, grandit, tantôt elle retombe de nouveau, avec un grondement lointain et incessant, mais sans perdre sa tranquillité, impassiblement belle, froide et indifférente. Soudain, le cœur de Maxime défaillit. Comme autrefois, sous les doigts du musicien, un gémissement s'exhala. Il s'exhala, résonna, puis s'évanouit. Mais non, ce n'est déjà plus un gémissement arraché par le malheur personnel de l'aveugle. Ce n'est plus la souffrance égoïste d'autrefois. Les yeux du vieillard se remplirent de larmes, et des pleurs mouillaient aussi les yeux de ses voisins. Se détachant nettement sur le tumulte de la rue agité par une vie grouillante, planait à présent au-dessus de la salle une note douce mais puissante qui sanglotait, poignante, et serrait le cœur. Maxime la reconnut, cette tristement dolente mélopée des aveugles. « Faites l'aumône aux aveugles, pour l'amour du Christ !» On aurait dit qu'un orage s'était déchaîné au-dessus de la foule, et tous les cœurs tressaillirent aux accents de cette lamentation gémissante qui s'éteignait doucement. Le musicien s'était tu depuis longtemps. Mais la foule, frappée de terreur par cette vivante évocation, gardait un silence de tombeau. Le vieillard baissa la tête et pensa « Oui, il est devenu voyant. Au lieu d'une égoïste souffrance sourde et incurable, il porte dans son âme le malheur d'autrui, il le sent, il le voit. » Et sait rappeler les misérables au souvenir des heureux de ce monde. Et le vieux soldat penchait de plus en plus sa tête. Il avait fait son devoir. Sa vie ne s'était pas traînée inutile. Les sons puissants qui planaient et régnaient en maître dans la salle, dominant la foule, en étaient l'éclatant témoignage. C'est ainsi que débuta le musicien aveugle.